present and guten Abend! Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good?
Toi qui nous écoutes, oui, tu es bien à l'écoute de Radio Canu et c'est 22h, c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches. Eh bien, ce soir dans les studios, nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Bonsoir toi. Nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Bonsoir toi. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir.
Bonsoir toi.
Et nous avons Jean-Yves qui a fait l'ouverture. Bonsoir.
Bonsoir toi. Et on salue Jack qui nous écoute à l'avant en train de fumer ses clopes. Bravo, ah ben bravo. Eh bien, alors la causerie, on va commencer déjà par vous rappeler les différents moyens de nous contacter, de nous écouter. Il y a déjà le mail, si vous voulez nous envoyer un petit mail, ça se passe à la causerie canu, en minuscule et tout attaché. Donc lacausericanu@gmail.com. Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les émissions. Si vous avez du temps devant vous et que vous dites, tiens, l'objectif de ma vie, on écoutait 250.
Du temps et du goût.
Et du goût, c'est vrai. Le goût, c'est important. Et ben, tout ça se passe sur l'espace blog. Ben ouais, attends, on a des blogs. Alors, ouais. Blogs, au pluriel, donc, .radiocanu.org/lacauserie. Et on a aussi une page sur un réseau socio-commercial qui appartient à Marc Z et qui s'appelle Rainbook. Et,
Bip.
Et ben, vous y retrouverez la causerie Canu. Attention, nous ne sommes pas un groupe de parole protestant, nous ne sommes pas non plus un restaurant, nous sommes bien la causerie de Radio Canu. Voilà, ouais. C'est juste pour que vous ne vous trompiez pas.
Bah, surtout si tu veux commander des pâtes, c'est pas chez nous. Quoi.
Non plus, effectivement, ça marche dans tous les sens, hein, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, on va commencer sans plus attendre. Fab.
T'as un ton très France Culture ce soir.
Oui, ce soir,
nous allons commencer sans plus attendre.
Moi, je bosse pour ma future carrière. Vous voyez, je veux dire, j'ai compris le réseau associatif, ça peut servir comme, tu vois, un truc pour
un
aller.
Échelon à aller, voilà.
Mais oui, moi, je vous mangerai tous demain, je vous préviens, quoi.
Ah oui, mange-moi.
Bon, allez, on se reprend en douceur. Et ben, Fab, tu veux nous parler des normes et de liberté, je crois.
Oui, alors en fait, clairement, je ne vais pas parler ce soir, enfin, je ne vais pas regretter ce soir l'acquisition de nouveaux droits ou d'avancées sociales. Hein. Au contraire, il s'agit d'acter que ces droits sont qu'un début, mais aussi de lancer une réflexion, pour moi, autour de la notion de normativité qui peut malheureusement découler de nouveaux droits. Et comme je suis une grosse feignasse, je vais m'appuyer sur des exemples pour faire comprendre ce que je veux dire dans ma tête malade là ce soir. Vous allez voir, c'est pas compliqué.
Allons-y.
Alors on va commencer par le mariage pour tous. Donc l'arrivée du mariage pour tous est une belle avancée d'un point de vue étatique et républicain. Voilà. Par contre, les anarchistes et les vrais communistes ont un mal fou avec la notion de mariage et pour cause. Demander à un tiers de légaliser une union et la légitimer, c'est toujours un peu étonnant pour des gens qui prônent la liberté individuelle. Mais dans la République française, c'est une vraie avancée. Sauf que cette avancée tend à amener vers une sorte de pression sociale. Alors, je vais expliquer pourquoi je parle de ça. D'abord auprès des personnes homosexuelles ou transsexuelles qui ne se marient pas. Combien de fois avons-nous entendu de la part de tiers la phrase « Mais pourquoi vous ne vous mariez pas alors que vous pouvez le faire ?» Ou pire, « On s'est battu pour cela, c'est quand même pas logique de ne pas se marier. » Cette pression sociale forte explique sans aucun doute pourquoi chez les plus jeunes personnes homosexuelles on se marie plus que chez les plus jeunes personnes hétérosexuelles. Oui, parce qu'il n'y a pas de logique générationnelle du coup.
Non, et puis en plus c'est marrant parce que c'est faire passer pour progressiste une institution finalement qui nucléarise la société, qui crée de l'ordre et des petites cases, enfin il n'y a pas de souci quoi.
Ben voilà.
Voilà, mais ça c'est le progrès ça.
Et justement c'est là qu'on voit qu'il y a un biais énorme à cette réflexion, c'est pas parce qu'un droit est acquis qu'il doit devenir obligatoire. Avoir le droit de faire quelque chose, c'est bien pouvoir, mais aussi... pouvoir ne pas le faire. C'est pouvoir le faire ou ne pas le faire. Et d'ailleurs, cette dérive autour du mariage n'est pas sans conséquences. Dans les entreprises où le PACS était reconnu comme le mariage, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de différence entre les gens qui se PACSaient et les gens qui se mariaient en termes de droits acquis dans l'entreprise, de plus en plus de directions, voire des syndicats réactionnaires comme par exemple la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, je vous le rappelle,
c'est dans le nom.
Le seul syndicat qui s'était opposé au mariage pour tous, demande que les accords soient revus pour que seul le mariage soit reconnu comme relation stable entre personnes. C'est oublié un peu vite que 92% des PACS sont conclus entre personnes de sexe différent. Voilà.
Donc, ce qu'on appelle des hétérosexuels.
Oui.
Voire même des gens qui n'entretiennent pas forcément une relation amoureuse.
C'est ça, il y a aussi la notion que dans le PACS peut être un contrat de soutien entre deux personnes qui vivent ensemble. Voilà, bref. On le voit, c'est d'un côté pour le patronat l'occasion de vouloir faire des économies, hein, évidemment, et de l'autre pour les moralistes de tout poil un moyen de détourner, de remettre de la morale dans tout ça. Et finalement de normaliser les choses. Le vrai amour, c'est le mariage. Voilà.
Sinon, c'est fake.
Vous pouvez dire amen derrière, si vous voulez. Enfin, moi, je veux pas, mais vous faites comme vous voulez. Et en fait, bizarrement, je parle ça parce qu'en fait, il faut surtout pas négliger cet impact-là, parce qu'on a toujours l'impression comme ça qu'une avancée sociale, elle va forcément vers le progressisme, mais en fait, il y a des gens qui vont pouvoir récupérer une avancée pour finalement remettre une pression et revenir sur des rails un peu plus moraux. Alors, je vais aller maintenant sur la notion des travailleurs des personnes en situation de handicap. Vous le savez, depuis 1992, enfin, je pense. Peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des lois qui obligent les employeurs à mettre aux normes les entreprises et à faire en sorte qu'elles puissent accueillir des personnes qui sont en situation de handicap ou atteintes suite au mal-être au travail, aux blessures au travail qui deviennent handicapées pour pouvoir rester dans l'entreprise. Pardon, ouais, aménager les postes, je cherchais le mot. Alors, personne n'ira dire que c'est mal de prendre en compte plus de 2 millions de personnes en âge de travailler, hein, quand même.
Non.
Ce serait quand même bizarre de dire, bah non, on n'a rien à foutre des personnes en situation de handicap. Mais le souci, il est ailleurs. C'est dans la façon dont on reçoit et perçoit les choses. Ainsi, pour une majorité de Français, selon un sondage commandé par le Figaro et France Info, les personnes atteintes de handicap ont tendance à trop attendre avant de tenter de trouver un emploi. Voilà. Et ça, c'est une large majorité qui pense ça, les Français, dans ce sondage, parce qu'on est à plus de 70%. Alors, on sait bien que les sondages, on en fait dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un petit peu étrange que ça sorte comme ça. Ça peut paraître anodin, mais là aussi, ça ne l'est pas du tout. Ça met une pression énorme sur les personnes qui sont en situation de handicap et qui ne pourraient ne pas aller travailler, tout simplement. C'est d'ailleurs la même logique qui tend à vouloir faire disparaître l'allocation adulte handicapé pour la remplacer par une aide au maintien ou à la mise en place d'un emploi. C'est pas la même logique.
Là encore, est-ce que c'est pas maintenir sous couvert de progressisme une bonne vieille institution, voire un bon vieux système de travailliste, exactement, bien violent, bien asservissant?
Oui, c'est ça.
Bon, ça va.
Ça va, c'est bien ça, tu as tout compris. D'ailleurs, c'est l'idée même que si vous ne pouvez pas travailler en plein, vous devez rapporter un minimum à la société, hein. C'est quand même l'idée qui est derrière, qui est sous-jacente à cette pensée-là. On le voit, c'est très malsain. Il faut rappeler qu'en France, 900 000 personnes ne peuvent pas travailler du fait de leur handicap sans mettre en danger leur vie. Alors très clairement, hein, c'est une catégorie qui existe où on dit « si les gens vont travailler, ils vont diminuer leur espérance de vie ». Ou alors elles ont des problèmes cognitifs qui font qu'elles ne peuvent pas du tout travailler. Mais là où il y a un petit hiatus, c'est que par exemple dans ces 900 000 personnes, vous pouvez avoir des gens qui ont des problèmes cardiaques, par exemple, ouais, je prends cet exemple très précis parce que c'est l'un des plus nombreux dans les 900 000. Et des gens qui ont des problèmes cardiaques, on pourrait leur dire, ah oui, mais toi, tu peux très bien aller plier des enveloppes, machin. Sauf que les cardiologues, ils tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils disent, non, attention, même une activité sur 2 heures ou 3 heures par jour peut diminuer de 5 à 10 ans l'espérance de vie des personnes qui sont atteintes. Et il y a des gens qui répondent, bah oui, mais bon, ils coûtent à la société, alors tant pis, ils feront 5 à 10 ans de moins sur Terre. Voilà, voilà.
Mm-hmm. Oui, il faut que l'être humain soit rentable d'une certaine manière. Hein. Handicapé ou pas, il faut que tu sois rentable.
C'est ça. Et tout ça avec la bonne pensée de dire oui, mais on leur ouvre le travail et on a fait des lois pour qu'ils puissent venir travailler. Donc, quand même, hein, ils pourraient venir bosser, ces feignasses. Et c'est là qu'on voit que de mettre en place des droits peut entraîner une volonté de normalisation et une pression sociale malsaine et dangereuse, comme tu le soulignais, Jonathan, dans le sens du travaillisme, c'est-à-dire l'idée que le travail rend libre. Voilà.
C'est plus joli en allemand. Arbeit macht frei. Voilà. On dit ça avec beaucoup de cynisme. Hein.
Mais oui, évidemment.
Oui, et j'ai pris sérieux.
J'ai pris un dernier exemple, d'ailleurs, qui était venu pendant la prépa qu'on a fait, ou les discussions qu'on fait des fois autour d'un excellent gâteau. C'est le droit de vote et le droit de vote des femmes. Mmh. Et une amie anarchiste d'ailleurs m'avait déjà fait la réflexion, et une causeuse autour de ce micro m'a fait la même en me disant,
je vois pas qui tu parles,
en me disant en tant que femme, en fait, on prend dans la gueule une double claque de normalisation à chaque élection. En effet, on explique à une femme qui ne veut pas voter qu'en fait, il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse voter. Et puis, on vient lui rappeler aussi qu'il y a des femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote, comme les suffragettes et ceci et cela. Et voilà, on remet une double pression sociale en disant si tu ne vas pas voter, tu es vraiment une saloperie quand même. Hein,
ah
c'est
ouais
quand même l'idée. Voilà, et double parce que quand même, tu es une femme en plus. Quoi.
Ah ouais.
Et là, pareil, on va noter un biais. C'est qu'en plus, cette position qui est adoptée, soi-disant, pour des valeurs progressiste du vote, mais en fait elle délégitime le vote, parce qu'elle laisse entendre que lorsque vous avez par exemple 2 candidats auxquels vous n'adhérez pas du tout, ni l'un ni l'autre, il faut quand même aller voter, et donc choisir le moins pire, ce qui revient finalement à dire que le vote ne sert pas à grand chose, et que globalement vous êtes toujours dans la notion de le vote, et ben, il faut aller voter à tout prix quoi que tu votes. Alors bien sûr il y a l'entourloupe de dire, non t'as qu'à voter blanc, vous savez, on l'a déjà entendu ça. Oui, sauf qu'on sent bien quand même dans la petite pression qui est mise par les personnes qui vous sortent ça, que non, l'idée c'est pas que vous alliez voter blanc, hein, c'est vous allez voter pour le moins pire, parce que sinon le fascisme est à nos portes, tout ça, on entend tous ces trucs-là. Et en fait finalement je trouve que c'est un affaiblissement même de la notion de vote, quand on y regarde bien.
Mais totalement.
Ce positionnement.
Et même, cette réflexion, elle me fait penser aussi au fait qu'on annihile la notion de choix.
C'est ça.
Parce que quand on crée une norme, donc là, dans le sens du progrès, hein, dans le sens de ce qu'il faudrait bien faire pour bien progresser, on annihile la notion de choix, on crée une dictature de la pensée. Et du coup, si toi, tu avais, par exemple, décidé de pas voter pour tel candidat, parce que cet exemple est excellent, pas parce que t'es une femme, pas parce que t'as le droit de vote, mais juste parce que t'as pas envie de voter, parce que t'es anarchiste, par exemple.
Par exemple.
Non, t'as pas le droit. Enfin, tu représentes.
Fais partie des méchants.
Voilà, tu fais partie des méchants. Tu ne peux pas. Et puis, du coup, tu peux pas avoir un point de vue individuel sur les choses. Tu dois correspondre à la norme progressiste et voilà. Donc, non, en effet, ça annihile le choix. Le fait de créer un.
C'est un peu. C'est le sens de ma conclusion, donc ça tombe bien. Non, mais c'est parfait, c'est nickel. En fait, cette façon de poser la norme comme allant de soi, avec les droits qui viennent, en fait, est finalement une position assez réactionnaire. Elle entraîne, en fait, une volonté de ne pas donner des droits en plus, mais bien de garder dans le droit chemin des personnes déviantes. Je reprends l'exemple du mariage pour tous. Il y a quand même l'idée que maintenant qu'il y a le mariage pour tous, ces petits homos là qui sont bien gentils mais qui quand même sont un peu efféminés et puis sont pas vraiment des mecs, hein, ils pourraient quand même se marier à minima pour faire un petit peu comme nous hétéros qui avons des enfants et qui faisons tourner la société.
Là tu parles des homos hommes.
Homme, bien sûr.
Parce que les hommes
Mais je vais aller plus loin que ça. C'est parce que je venais justement sur la notion des lesbiennes. Parce que, oui, pardon, j'ai dit homo tout court.
Non, mais c'est pas grave.
Et quand t'es une homosexuelle femme et qu'en fait tu es dans cette. Non seulement on dit ça, mais on te rappelle qu'il faudrait que tu rentres dans ton rôle de mère maintenant.
Ah bah oui.
Maintenant que tu peux, faudrait pas déconner. Et donc là, en fait, y a une espèce de double rail. Hein, mets-toi bien et fais bien ce que tu dois faire. Et c'est assez marqué en fait.
Travail, famille, patrie.
c'est les valeurs.
Petit refrain qui revient comme ça.
Et donc pour moi, c'est quand même là, on est face à des choses qu'il faut combattre, non pas les droits acquis, mais la façon dont on s'en sert et la façon dont après, on va avoir une espèce de discours bien rodé, bien huilé, qui va aller dans le sens finalement de la réaction. Et c'est à nous de dire, bah non, là c'est ok, il y a un droit, mais si y a un droit, ce n'est qu'une chose que tu peux ou ne peux pas faire. Et en fait, pour le combattre, il faut toujours garder en mémoire ceci. Acquérir des droits n'est que le pansement sur la plaie en attendant d'être réellement libre.
Oh, que c'est beau.
J'avoue.
Mais ça, c'est une belle conclusion.
Ah bah là... Non mais effectivement, moi ce que je me faisais comme remarque, c'est que... Et c'est une expression que j'utilise souvent, les progressistes, etc. C'est qu'en fait, même dans la notion de progressisme, en fait, on a différents degrés, en fait, de toutes ces choses-là. Il va y avoir un progressisme qui va être dans le cadre républicain, effectivement, comme tu l'as rappelé. Mais il y a aussi un progressisme qui, pour moi, est une forme encore plus évoluée ou encore plus...
Abouti
aux notions des libertés individuelles. Et effectivement, enfin, je me souviendrai toujours d'un ancien militant coco qui me disait, mais t'as pas honte, tu vas manifester dans la rue pour demander le droit des homos de se marier, quoi. Qui est une institution, comme tu le disais, hyper réactionnaire, en fait.
C'était pas l'idée qu'il fallait pas que les homos soient égaux, c'était l'idée qu'il fallait abattre le mariage.
Mais c'est que, voilà, c'est ça, en fait.
Tous égaux contre le mariage.
Et c'est tout ça. Alors que, bon, ok, moi j'y ai été, je n'aime pas du tout le mariage, mais je me suis dit qu'effectivement, l'idée c'est que tout le monde puisse avoir le même droit de faire les mêmes conneries, ou pas d'ailleurs. Mais que, pour autant, moi, effectivement, ma notion de lutte, ça va pas s'arrêter maintenant. Et c'est ce que tu rappelles, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de s'arrêter là maintenant parce que c'est cool, on ressent tout ça tout le monde. Non, en fait, on peut aller encore plus loin en disant, bah, en fait, c'est pas à l'État de dire ce qu'on a le droit de faire ou pas, en fait.
Mais après, tu peux tout de même tomber dans des trucs assez, assez ridicules et qu'on avait déjà évoqué sur un autre sujet, c'est le travail de nuit des femmes. Pendant des années, le travail de nuit des femmes était interdit, on ne pouvait pas travailler de nuit quand on était une femme. Et donc, au nom de l'égalité, on a dit, il faut que les femmes puissent aussi travailler de nuit. En fait, la vraie égalité aurait été de dire, il faut plus personne ne travaille de nuit.
Mais oui.
Et là, on est allé dans l'autre sens et finalement, on voit bien qu'on va dans le sens, non pas du progrès mais du patronat, mais c'est présenté comme un progrès social parce que c'est l'égalité. Sauf qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on met derrière l'égalité et jusqu'où on veut aller, quoi.
Et puis quel type d'égalité on met en place, parce que quand on est tous égaux dans la merde, on est quand même dans la merde.
Et oui. Et ça me fait aussi penser à certains qui luttent pour que effectivement les LGBT tous puissent accéder genre à l'armée.
Et moi je m'en fous. Hein.
Bon bah ok, oui, on va être à l'égalité de tout le monde.
Donc on avait.
Mais quand même l'armée. Je veux dire, au départ, que ce soit des LGBT ou des meufs ou des mecs ou n'importe qui tient un flingue et qui fait la guerre, reste une personne qui fait la guerre, qui défend un État et des intérêts économiques. Donc c'est tout ce truc-là, en fait, c'est que l'égalité en soi, c'est pourquoi, pour qui, et c'est pas suffisant, quoi. Ça dessine pas tout un projet de société derrière, quoi.
Mais Jean-Yves, regarde les boucles bouclées. Travail, famille, patrie.
On y retourne.
On y arrive.
Allez, on part en musique.
Allez.
Les statistiques, les données, les pertes et les profits, la machine à café et la cantine le midi, les promotions, les RTT, les bénéfices de la boîte, je laisse tout derrière moi quand j'enlève ma cravate. Les conférences, la DRH, le comité d'entreprise, tout ça je n'y pense plus quand j'enlève ma chemise. Et ma femme aussi, j'avoue que je l'oublie quand je sors ma malle à secret cachée sous le lit. Je déplie mon tapis d'éveil, plus rien n'est important. Et quand j'enfile ma couche, alors là, je suis content. Ma tétine dans la bouche, mon doudou contre moi. Je ne voudrais être nulle part ailleurs que maintenant et là. J'aime l'odeur du talc et le glouglou des biberons. J'aime qu'on me change quand je suis mouillée et les pavoirs. Je m'habille comme je me sens moi. Un bébé d'1m83. Je faisais ça tout seul, tranquille dans mon coin. Mais à force on se sent seul, tout seul dans son coin. J'ai contacté des prostituées mais j'ai pas trop aimé. Je voyais bien que c'était que pour l'argent qu'elles me talquaient. Heureusement j'ai découvert la communauté. Sur internet on se retrouve pour gazouiller. Là-bas personne se juge, on se félicite parfois. Quand il y en a un qui ose porter une couche hors de chez soi. Je l'ai fait un jour pour impressionner les copains du site. J'avais mis une couche sous mon costume, ça s'est su vite. J'étais dans le top 3, c'est vrai que j'avais fait fort. C'était au mariage de ma fille, j'ai gagné la tétine d'or. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde, oui on dit ça. Mais quand t'es pas comme tout le monde, le monde bah il veut pas de toi. Je le sais, j'ai essayé d'en parler à ma femme. J'ai vu la peur dans ses yeux, j'ai dû éviter le drame. J'ai dit que c'était pour rigoler et elle a rigolé. Elle a rigolé même sans pouvoir s'arrêter. En imaginant que des adultes mettent des couches, portent des grenouillères, le pouce dans la bouche. Elle en parle à ses amis de ces tarés qui ont un grain. Et pendant les dîners, ça fait bien rire les copains. Ils vont sur internet et recherchent des images. Parfois ils tombent sur moi, toujours, toujours caché son visage. Mais moi j'aime l'odeur du talc et le glouglou des biberons. J'aime qu'on me change quand je suis mouillée. Je m'habille comme je me sens, moi, un bébé d'1m83.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org comme tous les dimanches à 22h. Et on vient d'entendre 1m83 de Guidré. Et Guidré, elle vient de sortir un nouvel album. C'est Guidré est les gens, mais est, pas est comme haïr. Et c'est plein de petits morceaux comme ça où elle parle des gens qu'on, soit qu'on n'aime pas, soit qu'on aime bien pas aimer et qu'on sait pourquoi on les aime pas. C'est à la mode Guidré, c'est drôle, c'est cynique, ça grince, mais j'adore. Voilà. Oui, oui. Et celle-là, elle est très belle, je trouve. Et le message est très beau. Soyez vous-même.
C'est ça.
Voilà. On va continuer avec Jean-Yves qui va nous pousser à aller au travail.
Oui, tout à fait, évidemment. Vous savez peut-être, si vous êtes des habitués hein, de la causerie, que le travail n'est pas vraiment une cause que nous défendons. Ou alors, bon, effectivement, par le biais de sa mort, la mort du travail et du salariat. Youpi, tralala.
Voilà, salarial, parce que le travail pour soi, genre s'auto, voilà, cultiver, créer,
mais
etc.
Mais c'est des activités.
Voilà.
Je le nomme mais pas c'est... travail.
Oui,
c'est
voilà.
Des activités. C'est pour ça que je fais le distinguo. Eh ben, aujourd'hui, ben, je vais vous présenter un livre qui n'est pas là tant pour tuer le travail que pour démontrer la bêtise des annonces, des offres d'emploi, de la traditionnelle lettre de motivation et des éventuelles réponses qu'on peut recevoir qui sont elles aussi assez automatiques ou assez toutes semblables. Ou alors des fois on reçoit même pas de réponse en fait. Majoritairement d'ailleurs. Donc le livre dont je vous cause ce soir, il est de Julien Prévieux, qui est artiste plasticien, enfin il fait plein de trucs. Sa première vidéo, je crois, c'est lui qui fait des roulades dans la rue. Voilà. Donc je vous laisse découvrir le reste de ses œuvres. Il a été exposé dans pas mal de musées à travers le monde aussi. Donc voilà. Et donc son livre s'appelle Lettres de non-motivation. Hein. Ça a été édité en 2007 aux éditions Zone. Donc lui, pendant 7 ans, hein, dans une démarche artistique qui finalement prend aussi une tournure politique, en fait, parce que je trouve que démontrer toute cette absurdité des annonces et de tout ce qui va derrière, c'est aussi une forme de politique, en tout cas démonstration politique. Et il a répondu à environ 1000 annonces, hein, et donc dans ce bouquin vous en trouvez, je ne saurais pas vous dire, peut-être une centaine, gros maxi. Donc, et par ses lettres de non-motivation, il effectue aussi un renversement de la position et du pouvoir en fait du patron et du mépris auquel on peut parfois faire face lorsqu'on répond effectivement nous toutes et tous à des annonces hein, avec nos soi-disant lettres de motivation. On est là pour se vendre en disant des fois n'importe quoi, mais il faut se vendre à tout prix. Donc le bouquin, en fait, il est avec différentes offres d'emploi. En fait, vous avez en premier plan l'offre d'emploi. Derrière, vous avez sa lettre de non-motivation. Et dans une grosse première partie du livre, vous avez ensuite des fois des réponses. Enfin non, vous avez les réponses que les entreprises ont faites à ces lettres de non-motivation. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de vous en lire 2-3, histoire que vous goûtiez, en tout cas à ce que moi je vois comme un vrai plaisir, voire une petite jouissance, qui est celle de dire non en fait à tout ce truc auquel on court tous, parce qu'on court tous quand même après du taf, en tout cas après la thune que nous rapporte le taf. Donc voilà, donc je vous en propose 2-3, dis-moi.
C'est toi qui disais pendant la prépa que c'était une liberté réparatrice et jouissive de dire non.
Oui, c'est dans la note de l'éditeur qui effectivement dit à l'heure du travailler plus pour vivre moins, ces lettres de non-motivation nous réapprennent quelque chose de fondamental. Retrouver cette capacité jouissive, libératrice de dire non. Effectivement. Donc, je vous propose la première. Alors, je vais vous lire l'annonce à chaque fois et derrière, je vous lis ça, lettre de non-motivation. Et ensuite, la lettre de réponse à cette lettre de non-motivation. Alors, Marbory des Yvelines recherche opérateur CFAO. Vous avez 20-30 ans, niveau bac minimum, motivé, souriant, physique, avec l'esprit d'équipe. Vous assurerez la programmation, le chargement, le suivi de façonnage et l'entretien de 2 centres de façonnage de marbre numérique. Rémunération motivante. Adressez votre lettre de motivation, CV et photo à Marbrerie des Yvelines, Zach du Val-Joyeux à Villepreux.
On rappelle que c'est une vraie annonce. Hein.
Ce sont toutes des vraies annonces. Hein. Et ces lettres de non-motivation, il les a réellement envoyées. Et les réponses sont des vraies réponses aussi qu'on lui a faites. Je lis donc sa première lettre de non-motivation. Hein. Monsieur, j'ai appris que votre entreprise proposait un poste d'opérateur CFAO dans son établissement de Villepreux. Votre annonce, parue dans le journal Le Marché du Travail, est vraiment la plus petite de la page 8. Cela ne laisse rien présager de bon en ce qui concerne la santé de votre entreprise et vos capacités de gestion. En effet, vos concurrents ont pour habitude d'occuper le terrain de manière spectaculaire. Par ailleurs, vous cherchez quelqu'un de souriant et vous êtes situé au Val-Joyeux, ce qui me conforte dans l'idée que vous n'êtes pas assez rigoureux pour que je travaille avec vous. Le travail n'est pas une partie de rigolade. Par conséquent, je refuse votre offre et ne joins pas mon curriculum vitae. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Et là, une réponse à cette lettre de non-motivation. Monsieur, nous vous remercions vivement de nous avoir adressé votre candidature pour le poste d'opérateur CFAO. Malgré tout l'intérêt qu'elle comporte, nous avons reçu des candidatures qui correspondent plus à nos critères. Nous sommes donc au regret de ne pouvoir lui donner une suite favorable. Nous vous prions, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Donc, ils répondent quand même très sérieusement à une lettre de motivation.
Au-delà du sérieusement, c'est qu'on voit qu'ils répondent automatiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été lue du tout. Et comme il le dit, il n'y a pas le CV, donc ils ne peuvent pas savoir aussi. Mais ils renvoient. Hein. Bon, moi, je suis vraiment. Merci vraiment beaucoup d'avoir écrit. Hein,
c'est ça que j'adore dans ce truc-là. C'est que ça démontre la stupidité de plein de choses, en fait. Deuxième offre. Alors, acteur majeur sur le marché secondaire du second œuvre bâtiment, recrute pour son établissement de Vitry-sur-Seine un coupeur de verre, la formation rémunération au poste de travail sera assurée par l'entreprise. Également, un manutentionnaire, le permis CACES, serait un plus. Donc, pour les deux postes, une expérience significative en industrie est nécessaire, talali, talala, envoyez votre CV et on sera content de vous répondre. Ça allait être de non-motivation. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le Parisien d'emploi. J'ai déjà vu des métiers dont la désuétude frôlait l'indécence, mais là, vous dépassez les bornes. Vous cherchez un coupeur de verre. On a changé d'époque. Monsieur, vous devez absolument vous moderniser et proposer des métiers qui correspondent à votre temps. Le 21e siècle est largement entamé. Apprenez que les talendiers, les poinçonneurs, les troubadours, les schlitters, les drapiers, les cochers, les bourreliers, les crieurs publics et autres montreurs d'ours ont disparu. Aujourd'hui, nous sommes en plein boom de télécom et de l'informatique. Sans être novateur, proposez au moins des postes d'ingénieur réseau. Nous avons besoin de nouveaux managers, d'expérience en veille stratégique, de consultants, de truqueurs d'image, de DRH, d'ingénieurs biotech. Notre société est post-industrielle. Le sillage peut attendre pour pas les produits financiers, ni les loisirs ou les semi-conducteurs. Vous êtes un frein à l'innovation. Aussi, je me vois dans l'obligation de refuser le métier rétrograde que propose votre entreprise. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Et là, réponse !
Bah oui !
Mais oui, monsieur, si votre lettre de non-candidature ne manque pas d'humour, j'ai toutefois peu apprécié que vous puissiez vous permettre de tourner en dérision un des métiers les plus reconnus de notre profession. Permettez-moi à mon tour de vous faire remarquer que le verre qui vous entoure a été façonné puis posé par des hommes après avoir été produit au cours d'un process de haute technologie. À vous lire, permettez-moi également de vous inviter à cultiver l'humilité, entre parenthèses, mais gardez votre sens de l'humour. Les savoir-faire professionnels les plus nobles s'accommodent mal de titres ronflants, souvent aussi creux qu'éphémères. Puisque le secteur de notre industrie n'est manifestement pas pour vous séduire, je vous souhaite tout simplement de trouver un métier qui vous corresponde. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
C'est déjà mieux la réponse, parce qu'ils l'ont lu.
Bah là, au moins, ils l'ont lu déjà, ouais. Oui, effectivement.
Il y a une vraie réponse à une vraie argumentation sur la question de qu'est-ce qu'un métier actuel ou non.
Mais grave, en fait, c'est ce que je me dis, parce que le gars lui dit juste, bah en fait, peut-être que notre métier, il est plus vrai que tous les métiers que tu m'as cités avec des superbes noms, quoi.
Donc, je pense, d'ailleurs, Julien Prévieux est tout à fait conscient.
Je pense aussi. Est-ce que je vous en fais une dernière ou pas?
Oui, vas-y.
Allez. Allez, alors là, on est très longue annonce. Hein. Sky Pharma Productions SAS, hein, filiale d'un groupe pharmaceutique anglais, et est un laboratoire spécialisé dans la sous-traitance de la production de médicaments forme sèche à l'international. Dans le cadre de notre développement, nous créons des postes en CDI pour la mise en place d'équipes week-end et jours fériés à 30 minutes de Lyon. Donc là, il y a deux postes qui sont décrits en week-end, etc. La lettre de non-motivation de Julien Prévieux. Madame, monsieur, je vous écris suite à l'annonce que vous avez fait paraître il y a quelques jours. Les liens étroits entre le stress professionnel et le développement de maladies physiques et mentales ne sont plus à faire. Plus d'un travailleur sur deux travaille dans l'urgence. Plus d'un sur trois d'y recevoir des ordres contradictoires et trouve ses relations dans le travail difficiles. Le rythme de travail important, les fortes exigences quantitatives et qualitatives liées aux tâches imposées, l'absence de contrôle du salarié sur l'organisation du travail, l'inadaptation des horaires au rythme biologique, les nouveaux modes d'organisation, flux tendu, polyvalence, l'instabilité des contrats, le management peu participatif, l'absence de reconnaissance du travail accompli, les nuisances physiques, la surenchère de la compétitivité, les incertitudes de l'entreprise quant à son avenir. Autant de facteurs responsables d'une anxiété chronique chez l'employé qui peut s'avérer dramatique. À ce propos, j'ai vu que vous cherchiez des techniciens de fabrication travaillant le samedi, le dimanche et en alternance le jour et la nuit. Je ne compte pas pour ma part être victime d'une dépression, d'un burn-out ou d'un karoshi. Dans une campagne de prévention personnelle, je préfère refuser ce type de poste et vous conseille de faire attention à vous. dans l'attente d'une réponse de votre part. Talali, talala, et voilà. Donc, c'est la réponse, il y en a eu une, et qui est exactement aussi automatique que la première que je vous ai lue. C'est votre profil ne correspond pas, merci, au revoir. Donc voilà, c'est, je sais pas si ça vous aura motivé pour le lire, mais en tout cas, c'est vraiment un petit truc qui s'emmène facilement partout. Vous pouvez lire une annonce à la fois. C'est enfin, moi, je trouve ça très jouissif. Tu voulais... Ah non.
Bah, moi, je voulais compléter ce que tu disais aussi, dans le sens où ça motive aussi à avoir le choix de ne pas être motivé pour aller au travail. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un travail où t'as envie d'y aller tous les matins. Et à un moment donné, peut-être qu'il faudrait sortir de cette obligation capitaliste qui est le fait d'aller vendre sa force de travail contre rémunération pas forcément choisie. Donc.
Mais moi, je trouve très bon le livre, et je trouve très bon sur un aspect, c'est que il désacralise. C'est-à-dire que je crois que la première méthodologie qu'on peut mettre en place pour survivre dans ce monde, et je dis bien survivre et pas vivre, c'est déjà de désacraliser le travail. Il y a Jean-Yves qui vient de s'exploser la jambe en s'asseyant, c'est très très drôle à voir. Et de désacraliser le travail et surtout d'en rire. C'est-à-dire que combien on a d'amis, de proches, ou même de pas proches, hein, ou de collègues, ou autres, qui parce qu'ils ont obtenu un titre ronflant dans l'entreprise qui veut strictement rien dire, j'en ai un qui me vient en tête, gestionnaire des flux transverses, par exemple, ce qui ne veut strictement rien dire, mais les gens sont contents d'être gestionnaire des flux transverses. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est, on voit que le monde du travail invente tout un tas de conneries, mais il faut en rire, quoi. Il faut surtout pas attendre du monde du travail qu'ils vous reconnaissent, arrêtez, et juste attendre, ben voilà, c'est un truc qu'on subit majoritairement. Et quand on subit, ben autant en rire, autant prendre un pas de recul, autant faire un pas de côté et éviter de voilà. Je sais que c'est pas toujours facile parce que je dis ça, les gens qui souffrent du fait d'aller travailler, qui font des burn-out, qui font des malaises, qui sont en dépression.
Ceux qui souffrent de ne pas avoir de travail aussi.
Et inversement, je ne suis pas du tout en train de me moquer de ça, parce que je comprends tout à fait dans la société dans laquelle on vit, que oui, ça peut être très compliqué, très dur, mais vraiment, je trouve que voilà, le livre donne ce conseil un peu en biais, c'est prenez le pas de recul, ne vous prenez déjà pas vous au sérieux, et ne prenez surtout pas le monde du travail au sérieux. Voilà. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui existent qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais il y en a un que je sais toujours pas ce que c'est community manager, par exemple. J'ai vu, parce que comme tu allais parler de ce livre, j'ai regardé les annonces et c'est ce qu'il y a de plus aujourd'hui. On cherche des community managers ou des gestionnaires de groupe.
Oui,
et voilà. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve, il y a des métiers comme ça. Oh, c'est beau. Voilà,
je pense qu'il faudrait en interroger peut-être pour savoir ce que ça, en quoi ça
consiste. Oui, mais je sais même pas si eux-mêmes voient la barrière que c'est. Et c'est pas un reproche contre les gens qui sont embauchés comme tels.
Non, et puis les métiers mais ça montre bien que voilà, la création de métiers aujourd'hui, elle est aussi folle que les entreprises. De toute manière, que ce qu'on nous vend aussi.
Mais c'est parce qu'il faut vendre.
Bon, le réseau social crée la communauté.
Ouais, c'est ça. Mais c'est l'idée de vendre des trucs ronflants, là où en fait, c'est pas, il n'y a pas besoin de l'appeler comme ça.
C'est ça.
Mais tu as ça aussi dans les nouveaux métiers des start-up. Vous savez, moi, je suis technicien, hein, au départ, c'est mon métier, je suis technicien chimiste, hein, voilà. Et maintenant, il ne faut plus que je me présente comme technicien chimiste, il faut que je me présente comme personne ayant eu un rapport avec les sciences. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait plus ronflant. Mais je savais pas que j'avais couché avec mes molécules. J'ai un rapport avec la science, voilà. Non, mais je trouve ça trop beau.
Oh là là.
Non, mais je trouve ça. Pardon.
Mais de toute façon,
me fait rêver tous ces trucs-là.
L'invention de nouveaux métiers, ou même en tout cas une nouvelle appellation pour des métiers, c'est vraiment un truc pas nouveau.
Non,
et effectivement, je pense que le truc, c'est. En tout cas, ce bouquin, ce qui vous amène, c'est prendre un pas de recul.
Et rire.
Juste rire, inverser la vapeur. D'un coup, ne plus être nous à la merci de la première annonce qui tombe, parce que c'est quand même ça la réalité. Et juste à un moment donné, vraiment ce petit plaisir de dire bah non, en fait, bah non, je vais pas postuler. Et donc voilà.
Ça me donne presque envie d'envoyer des lettres de non-motivation.
Tout l'été pour m'amuser.
Non, mais juste pour voir si j'ai des réponses.
Mais c'est-à-dire que lui le faisait alors qu'il bossait. Hein. Enfin, je veux dire, il est artiste aujourd'hui, et encore, si, je pense qu'il arrive à gagner sa vie, mais avant, il bossait, genre, il bossait chez Orange, et il continuait d'envoyer toutes ces lettres de non-motivation, quoi. Donc, c'est ouvert aussi à nous toutes et tous, on peut le faire, ça peut être marrant.
Ça peut être drôle, ouais.
Voilà, donc c'était Lettre de non-motivation de Julien Prévieux, c'est toujours aux éditions Zone. Voilà, et puis ben, je vous propose de...
Et ça se trouve un peu partout ?
Alors c'est sorti en 2007, donc je suis pas sûr que vous le trouvez dans tous les magasins aujourd'hui, mais par contre, enfin aujourd'hui avec les moyens, même dans les librairies, allez les voir, vous leur demandez, ils peuvent souvent majoritairement commander les bouquins qui sont demandés, qui sont certains d'être vendus si vous le demandez. Voilà, parce qu'ils peuvent pas avoir tout en stock parce que ça fait beaucoup d'argent.
Parfait.
Voilà. Et ben on se quitte, enfin on se quitte, on se retrouve après
non,
la
non,
musique.
Ouais,
on se retrouve après la musique. Eh ben, t'es toujours de retour, ou en tout cas à l'écoute de la causerie sur Radio Canu. Et nous venons de nous écouter « Je n'irai pas travailler » par le groupe Pogo Marteau. Et c'est Jonathan qui prend...
Au premier violon, il y avait... Ah non, pardon.
Ce soir, c'est France Culture.
Je vous bluffe, hein. Alors, on a dit... Oui, mon micro revient là. Alors, on a dit, c'est Jonathan qui continue et qui va nous parler d'un film docu-film...
D'un docu-film.
Dis-nous tout.
Alors... Oui, en effet, je vais vous parler d'un docu-film qui est sorti en 2013 de Malik Benjelloul et qui s'intitule « Searching for Sugarman, à la recherche de Sugarman ». Alors, petit laïus sur Monsieur Benjelloul, c'est un réalisateur, donc c'est son seul long-métrage, ce documentaire. Sinon, il a fait des courts-métrages, il a été acteur pendant son enfance et c'est un être assez dramatique puisqu'il s'est suicidé quelques temps après des suites de sa dépression, quelques temps après avoir fait paraître ce documentaire. Ah oui. Voilà. Et quelque part, c'est... je dirais pas qu'il y a un lien direct, mais c'est vrai que l'histoire de Sugarman, finalement, quelque part, peut un petit peu rappeler ce que lui a vécu en tant qu'artiste. Alors, j'irai pas m'avancer dans cette théorie-là, voilà, mais toujours est-il qu'on part quand même d'un réalisateur qui a donc un destin assez tragique et qui réalise ce documentaire. Et comment il en vient à réaliser ce documentaire ? Ben, lors d'un voyage en Afrique du Sud, il entend parler d'un type, Sugarman, que personne ne connaît vraiment, mais qui a édité deux vinyles, en fait, deux disques, qui ont fait un tabac, notamment dans la lutte contre l'apartheid, parce que les textes qui étaient diffusés étaient des textes de liberté, mais aussi de liberté individuelle, d'usage de drogue, de sexe, enfin des choses sympas de la vie qu'on n'avait pas trop le droit de faire quand on était noir, encore moins quand on était entre noir et blanc en Afrique du Sud durant l'apartheid. Et bon, c'était pas très conseillé quand on était blanc quand même. Hein, voilà, sexe, drogue et rock'n'roll, pas déconner quand même. Donc, du coup, on part du principe que ce réalisateur découvre ce conte de fées, puisque finalement, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour Sugarman. Alors déjà, Sugarman, c'est le nom d'une de ses chansons. C'est-à-dire que c'est un titre qu'il a écrit et qui est devenu très populaire. C'est aussi le nom de la personne qui a permis qu'on entame la recherche de ce type-là, à savoir Stephen Segerman. Et donc, comme son nom de famille est compliqué à prononcer, ça s'est transformé en Sugarman, comme la chanson est Sugar. Donc, ce fameux Sugar, ben, qui est en Afrique du Sud, qui connaît toutes les chansons du coup de Rodriguez, puisque l'artiste s'appelle Rodriguez, décide de partir à la recherche de ce type. Pour ça, il va monter un site internet et donc dans ce documentaire, on voit ce type qui décide de partir à la recherche de Rodriguez. On apprend dans le documentaire, donc il y a deux albums qui ont été édités, donc par Sixto Rodriguez, qui a d'ailleurs plusieurs pseudonymes, d'où la difficulté de le retrouver sur ses albums, à savoir Sixth Prince ou Jesus Rodriguez. Donc il y a un petit côté mégalo là-dedans et tout.
Ouais, mais ça il fallait à l'époque.
Mais voilà, mais le LSD de toute manière a toujours fait... Enfin moi je comprends d'où vient la religion. Du LSD, l'ergot de seigle. Enfin voilà, je suis Dieu, bonjour. Enfin ça voilà. C'est... Bref, non, repartons sur des choses un peu plus concrètes. Donc en 1970 paraît l'album Cold Fact. Donc Cold Fact, en fait, c'est la suite d'une découverte en 68 à Détroit, dans un bar des docks donc de la rivière Détroit. Et bien de ce chanteur Rodriguez par Mike Theodore et Dennis Coffey, donc deux gros producteurs américains qui ont travaillé avec des pointures.
Les Papas and the Mamas, par exemple.
Par exemple, et qui ont décidé de produire son premier album. Et ce premier album marche plutôt bien, mais sans cartonner non plus. Et finalement, c'est Mike Theodore qui présente Rodriguez à Steve Roland, qui lui dit « Non, mais moi j'adore ce que tu fais » et qui produit son deuxième album, donc « Coming from Reality ». Ces deux albums, plus un troisième qui n'est jamais terminé, finissent par tomber dans l'oubli aux États-Unis, donc réapparaissent au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. On ne sait pas trop par quel moyen. Et donc sont copiés. Donc ils sont copiés par un certain Steve M. Harris, en fait, qui vend ses copies et qui profite du fait que cette musique est complètement intégrée au mouvement contre l'apartheid, parce que les concepts qui sont apportés finalement permettent à la jeunesse de se libérer, d'avoir une nouvelle poésie, parce que c'est de la poésie, hein. Je vous conseille vraiment d'écouter ce qu'a fait Rodriguez, c'est magnifique, les textes sont très beaux et d'ailleurs durant tout le documentaire on le compare un petit peu à Dylan en disant que Bob Dylan c'est de la merde à côté. Alors j'aime beaucoup Bob Dylan, mais c'est vrai que ce que fait Rodriguez, c'est quand même, il y a pas mal de finesse, il y a un petit peu plus de finesse dans les images, dans les métaphores, et donc voilà, c'est très beau. Et puis surtout, ça a été des albums qui ont été interdits à la diffusion radiophonique en Afrique du Sud à cette époque.
On imagine, donc par, bien, on voilà, imagine bien pourquoi.
Donc par la SABC, du coup, South African, je n'ai pas le reste du sigle, mais donc l'autorité de diffusion radiophonique locale, et donc qui finalement raye, enfin on le voit dans un passage aux archives musicales, raye toutes les pistes qui sont jugées comme étant beaucoup trop subversives, oui. Notamment cette fameuse chanson Sugarman, qui raconte l'histoire d'un dealer de drogue. Voilà. Et donc, voilà, ce type, finalement, personne ne le connaît, personne ne sait d'où il vient. Rodriguez, on n'en entend pas parler. Et voire même court sur lui la rumeur d'un suicide sur scène, alors un truc abracadabrantesque, parce qu'il se serait tiré dans la tête, puis il aurait mis le feu, puis. Enfin voilà, tout un tas de. Enfin voilà, avec une fin. Avec une balle. Ah non, mais la totale. Enfin, c'est très très confus durant tout le documentaire, parce que c'est. Enfin, les rumeurs sont abracadabrantesques.
Le LSD, c'est parfois confus.
C'est parfois. Voilà, c'est. Donc. Voilà, hein, on est fin des années 70, donc il perd de sa notoriété, il réapparaît en Afrique du Sud. Et voilà que sur sa piste, donc déjà, se mettent en place plusieurs personnes. Donc notamment Eva, sa fille qui répond au site internet Monsieur Sugar, donc Segerman. Et en parallèle, ce Segerman contacte un journaliste qui est aussi fan de Rodriguez, un certain Greg Bartholomew, et qui part à sa recherche et qui finit par contacter Mike Theodore en 97 et retrouver Rodriguez. Donc il y a un truc qui est marrant aussi dans ce reportage, enfin dans ce documentaire, c'est que Ben Jelloul interview aussi les gens qui l'ont fait à l'envers à Rodriguez, c'est-à-dire qui ont fait qu'il avait été inconnu, qu'il est resté inconnu aux États-Unis et qui lui ont piqué du fric, parce que finalement c'est ça qui s'est passé quand ils ont vendu ses albums sans lui laisser l'accès à sa popularité. Alors ce qui est très marrant, et c'est quand on découvre le personnage de Rodriguez, on découvre que c'est un ouvrier de Détroit. C'est quelqu'un qui a vécu de manière ouvrière toute sa vie, parce qu'il n'a pas vraiment connu sa célébrité, parce qu'il n'a pas vraiment apprécié ni au niveau financier ni au niveau notoriété, et que il a continué à faire son taf. Et alors c'est un personnage qui fait son taf très bien, c'est-à-dire toujours bien, il est ouvrier, hein, il va mettre ses mains dans le cambouis, il est sur des chantiers la plupart du temps, mais toujours très bien habillé, très classe, enfin voilà, il ne s'empêche pas d'être quelqu'un parce qu'il va travailler. Et il ne s'empêche pas d'être quelqu'un parce qu'il n'est pas une star. Et du coup, c'est vrai qu'on regardait le documentaire encore cet après-midi pour travailler cette chronique, et c'est vrai qu'il a la classe, ce type. Mais c'est pas la classe qu'on bling-bling, c'est juste que, voilà, il est lui-même.
Il existe, quoi.
Il existe. Et donc, quand il est retrouvé, Malik Bendjelloul va l'interviewer pour son documentaire. Et là, on voit un personnage qui est très discret, qui est extrêmement, serein, on va dire, et qui explique que voilà, lui, ça l'intéresse pas particulièrement la célébrité, machin. Enfin, il est plein de recul. Bon, en même temps, ouais, il s'est fait entuber, et ouais, clairement. Mais bon, on apprend à la fin quand même qu'il a refilé tout ce qu'il a gagné par la suite, parce qu'une fois qu'il a été redécouvert, il a pu avoir du succès en Afrique du Sud, il a pu faire quelques concerts. Donc, à partir de 1998, enfin, du 6 mars 98, il a enchaîné 6 concerts en Afrique du Sud qui lui ont permis et de renouer avec ses anciennes maisons de disques, de récupérer de l'argent, d'avoir un disque d'or et de donner tout son argent à ses proches et à sa famille, parce que de toute manière, lui, il était ouvrier, il avait fait ça toute sa vie, donc pourquoi il changerait? Donc, c'est ça aussi, c'est ce recul. Et donc, il vit jusqu'aux dernières nouvelles, hein, jusqu'en 2013. Dans tous les cas, il vivait toujours dans la même maison, même endroit, sa vie à Détroit, enfin, dans la banlieue de Détroit. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont transmises à travers ce documentaire. Alors déjà, le fait que ce type-là a changé la vie de toutes les personnes qu'on voit dans le documentaire. Par exemple, Segerman, grâce à cette histoire, a pu monter son magasin de disques et sa maison de
production,
voilà, Mabu Vinyl. Du coup, donc c'est tout petit, mais c'est un changement. La fille de Rodriguez a rencontré quelqu'un pendant le voyage de Rodriguez en Afrique du Sud, donc elle s'est mariée, elle a des enfants. Voilà, et donc voilà, il t'explique tout ça. C'est qu'en fait, ce type-là, un petit peu partout où il passe, il en a rien à foutre, mais il change les choses juste parce qu'il existe, juste parce qu'il est là. Et en fait, c'est assez fou. Alors, au début du documentaire, il est décrit comme un vagabond, un mec qui bosse ponctuellement sur des toitures des chantiers mobiles, qui met en chanson ses poèmes, mais bon, enfin bref, c'est presque une ombre, alors qu'en fait, quand il arrive sur scène en Afrique du Sud, enfin, tu sens qu'il aime ça, qu'il est là, et oui, ils le disent, il est chez lui. Donc voilà, déjà, première chose, c'est qu'il faut arrêter de considérer que parce que tu es un ouvrier, tu n'es pas un artiste, tu es forcément inculte, et voilà, enfin, moi j'adore ça, c'est le milieu ouvrier n'est ni inculte ni stupide, on peut avoir une éthique du travail sans forcément cautionner le travail, on peut se dire qu'on aime les choses bien faites et pas faites à la va-vite ou dans la rente ou ce genre de choses. Et puis aussi, le fait de gagner de l'argent, de le laisser à sa famille, c'est aussi bien montrer que ce n'est pas une fin en soi.
C'est clair.
Qu'on a des possibilités de choisir, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de sa célébrité, qu'est-ce qu'on fait de son fric. Et enfin, savoir ses pouvoirs. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il a. Donc, ses filles parlent de Rodriguez et disent de leur père que ben, c'est ce qu'il leur a enseigné. C'est-à-dire que oui, vous vivez dans une ville un peu pourrie, avec un milieu de vie pas terrible, mais à un moment donné, on va essayer de vous donner des armes, parce que si plus tard vous vous retrouvez dans un autre milieu, ça serait bien que vous les ayez déjà. Et donc, c'est toute cette mentalité qui est véhiculée à travers un film qui se passe mais comme un conte de fées, parce que c'est un type, enfin c'est une success story à l'envers, avec des rumeurs de suicide, machin, de trucs, au final tourné par un type qui en soi est très dramatique. Donc voilà, enfin c'est un micmac, ça rend ce film fantastique. Et du coup, ça m'a permis de découvrir un artiste, donc Sixto Rodriguez, un type qui a fait trois albums qui sont juste fantastiques. Et voilà, si je peux vous dire quelque chose, c'est regardez le documentaire. Il est sympa, mais écoutez la musique, c'est merveilleux.
Et le documentaire s'appelle
Searching for Sugarman, donc de Malik Bendjelloul, paru en 2013. Vous pouvez le trouver sur Netflix. Vous pouvez également le trouver sur n'importe quelle bonne plateforme de streaming. Oh non, j'ai pas dit ça, c'est faux, c'est mal piraté. Et tout ça.
Mais en tout cas, moi je le connaissais pas avant qu'on en discute. Et en fait, j'ai lu par le plus grand des hasards une interview de Yolandis, qui est la chanteuse des Die Antwoord. Et elle le cite comme étant sa première référence pour la liberté. Voilà.
Oui.
Et elle dit Sugarman parce que là-bas il a gardé ce nom-là, il ne s'est pas appelé Rodriguez.
C'est Sugarman.
Et c'est pour elle la personne qui a, dans la musique, amené le plus de liberté en Afrique du Sud. Alors qu'il n'était pas sud-africain, alors qu'il n'était pas que. Lui-même ne savait pas qu'il était connu. Mais ça, on voit l'ampleur du phénomène, quoi. Parce que c'est une chanteuse récente.
Elle fait partie de cette génération qui a totalement été influencée par cette musique-là, parce que c'était le début de l'ouverture musicale et socioculturelle en fait de l'Afrique au monde extérieur, de l'Afrique du Sud, oui, au monde extérieur. Et c'était la fin de l'apartheid, enfin c'était la destruction de l'apartheid même.
Tout à fait. Voilà, mais c'est drôle de voir. Effectivement, il est très très connu là-bas.
On tâchera de mettre un lien sur le blog, etc., pour que vous puissiez rapidement tomber dessus.
Du moins vers la playlist YouTube, voilà, ou ce genre de choses.
Voilà, on fera ça.
Et parfait.
On en écoute un morceau ?
Eh bien, tout à fait.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams?
J'aime bien ça.
Moi aussi j'aime beaucoup Jean-Yves, j'adore ce petit côté un petit peu... Et ben, vous venez donc d'écouter le fameux titre Sugarman de Sixto Rodriguez qui a fait un tabac à l'époque de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et grosse influence notamment pour des groupes très récents sud-africains et africaners.
Mmh, tout à fait.
Eh bien on va se quitter par quelques brèves.
Oui. Alors, on commence lundi 25. Rassemblement du collectif Jamais sans toi. L'été est arrivé, les écoles vont fermer pour les vacances et ne pourront plus offrir de refuge pour les familles. Très inquiet et toujours mobilisé, le collectif Jamais sans toi organise un rassemblement à 17h30 devant la préfecture Quai aux Gagneurs à l'occasion de la tenue du Conseil départemental de l'éducation nationale. Donc c'est à 17h30 lundi 25 juin.
L'autre info, c'est toujours le lundi. Bah, c'est les deux infos qu'on vous donne toutes les semaines. Donc c'est de 18h à 20h à la Plume Noire, hein. C'est à 8 rue Diderot dans le premier arrondissement. Ce sont les cours de langue à destination des migrants et migrantes. Et la deuxième, c'est de 18h30 à 20h, c'est à la Lutine cette fois-ci dans le 7e arrondissement. C'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers. Voilà.
Et il y a aussi toute la semaine la permanence de soutien aux travailleurs sans papier qui se tient à l'UDC CGT du Rhône, 215 cours Lafayette, et tous les jours entre 10h et midi. Et si vous ne pouvez pas venir entre 10h et midi, n'hésitez pas à vous présenter, vous serez réorienté sans problème.
Eh bien, on passe aux autres rendez-vous. Et bien là, on va direct à samedi prochain. Samedi 30 juin, c'est le néolibéralisme Kesako. Journée de réflexion collective organisée par le RGL. Je vous le rappelle, le RGL, c'est le réseau de géographes libertaires. Donc, le terme néolibéralisme est employé partout, dans les médias, dans la rue, dans les universités. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ben c'est le but de cette journée-là. Donc, au programme de cette journée, conférences, ateliers et balades urbaines. Donc, je vous donne rapidos le programme. 10h midi à la médiathèque du Bachu dans le 8e. Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est ? C'est Odile Tourneux, qui tient une conférence et des ateliers. De 13h à 14h, c'est pique-nique tiré du sac à la pointe de la Confluence. Et de 14h à 16h, départ à la pointe de la Confluence pour la ville néolibérale, balade urbaine dans le quartier de Confluence. C'est par Thomas Zanetti, c'est pour justement voir comment une ville devient elle-même et elle-même porteuse de tout un projet de société, quoi.
Ça a l'air vachement intéressant.
Oui.
Et dimanche 1er juillet 2018, oui, nous sommes bien déjà en juillet la semaine prochaine.
Oui.
Le groupe de musique, les Lucioles Rouges, vous vous souvenez, on les a reçus dans la causerie numéro 252 le 13 mai. Et bien, ils seront en concert lors de la fête de la fraternité qui a lieu sur les bords de Saône le dimanche 1er juillet de 10h30 à 19h.
À Villefranche.
À Villefranche sur Saône, j'ai pas dit ? Ah bah non.
Alors, parce que je l'ai pas noté.
Et oui, donc c'est à Villefranche sur Saône. Et comme en fait, Villefranche, c'est pas loin et que tu peux même y aller en train, ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Au programme de la fête de la fraternité, des contes, des ateliers pour tous, de la lecture, de la danse, de la musique, un T-Rex, la présence de David Duchovny, des ovnis. Non, pardon.
Non, Duchovny, un T-Rex, où ça ?
Non, voilà. C'est sympa la fête de la fraternité à Villefranche. Ça sort un petit peu de Lyon aussi, c'est sympa d'y aller. Et en plus, il y a la Luciole Rouge, donc ça vaut le coup d'aller voir la Luciole Rouge en concert à Villefranche le 1er juillet 2018.
Et je crois que leur concert, c'est en début d'après-midi, si je ne me trompe pas.
Généralement, c'est là qu'il y a les gens qui voilà.
Et je pense qu'il y a aussi les assos qui organisent, que vous pouvez rencontrer, etc. Ouais. Dont une qui est les visiteurs de prison, enfin de personnes qui sont en prison. Donc ça peut être intéressant aussi de rapprocher ces collectifs-là et de faire toujours des liens entre l'intérieur, l'extérieur et tous ces gens-là qui ne sont pas...
Parce que le festival de la fraternité, du coup, était apparemment un ancien festival soutien aux...
Si j'ai tout suivi, à l'origine, il y avait déjà cette association et qui avait l'idée de soutenir les prisonniers. Et que donc voilà, ça s'est un peu élargi. Mais voilà. Donc du coup, dans tous les cas, ça vaut le coup d'y aller et c'est l'occasion de rencontrer et de voir qu'il n'y a pas qu'à Lyon qu'on milite.
Voilà, et de faire la fête.
C'est ça.
Bah oui.
Parce que c'est important.
Oui, c'est très important. Et évidemment, le rendez-vous suivant, c'est dimanche 1er juillet, 22h, 23h, la causerie, Canu, tout ça, tu comprends, tu connais.
Toi-même, tu sais.
Toi-même, tu
sais. Et tu as vu.
Bon, bah on va se quitter, c'est fini.
Ouais.
Et oui, surtout qu'on est encore à la bourre. Et on se quitte avec un titre de Richard Gotainer. Oui, oui, Richard Gotainer. Et ça s'appelle Ils se sont plus. Et c'est sur son nouvel album qui est sorti le 8 juin. Voilà. Et Guy Drey, l'album, il était sorti 15 jours avant. Bon, on fait des nouveautés dans la causerie.
Merci. Okay. Merci. On fait de la nouveauté avec des vieilleries.
Non, ce n'est pas une vieillerie.
Ah non, mais je parlais des animateurs et animatrices.
Hein. Ah, d'accord. Mais merci.
Mais pas tous. En tout cas, pas toutes.
Bah alors, les vieilleries, bonne nuit.
Merci.
Bonne nuit, des bisous.
À la semaine prochaine, des bisous. Ciao.
Des bisous.
Ciao.
C'était un mercredi à la porte des Lilas. Lui passait par ici, elle se baladait par là. Lui tout à coup glissa, elle ça la fit rigoler. Alors il aborda et ils se mirent à papoter. Elle le trouvait pas beau, il la jugea très mimi. Plus tard il fit allô, elle répondit allô oui. S'en suivirent des chandelles, un dîner sur une terrasse, des yeux pleins d'étincelles et des doigts qui s'entrelacent. Ils ne s'étaient jamais vus, mais se sont reconnus, et ça leur est tombé dessus. Ils se sont plu. Comme s'ils étaient plusieurs, ils firent l'amour comme pas un. Elle aima son odeur, il adora son parfum. Ils s'embrassèrent beaucoup, se reniflèrent en grognant, se touchèrent tout partout, et cela dura longtemps. Il disait je te hume pour éviter les grands mots. Pourquoi mettre une enclume dans un envol des tourneaux? Les mots que l'on entend sont bien souvent plus jolis, en amour notamment, tant qu'ils ne sont pas dits. Ils ne s'étaient jamais vus, mais se sont reconnus, et ça leur est tombé dessus. Ils se sont plu. Ils traînent assez au lit, elle s'éveilla dans ses bras. C'était un vendredi, ça faisait 10 ans déjà. 10 ans que chaque jour, ils célébraient le matin, en se disant bonjour dans les moiteurs d'un câlin. Conséquence incendiaire d'un chuchotis de gros mots, leur seul vocabulaire transformait drap en brûlot. Si l'azur dans leur ciel devait durer toute la vie, ce serait à cause d'elle, ce serait sa faute à lui. S'étaient jamais vus, mais se sont reconnus. Et ça leur est tombé dessus. Ils se sont plu.
De ta moisson, toi du jour.